Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le Big Bang et la Bible. Alors, on va lire un texte dans Genèse chapitre 1 et au verset 1 pour montrer comment la Bible présente les choses. Il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement. Nous allons donc nous intéresser au commencement des choses, à l'origine de l'univers. Parce que de tout temps, l'homme s'est posé des questions sur ses origines, savoir comment et pourquoi il est apparu. Alors il y a des religions qui ont essayé de donner des avis. Je dirais que la religion, c'est une tentative d'explication de l'origine du monde. Il existe plus de 10 000 religions qui sont toutes des recherches de Dieu. La philosophie a aussi essayé par bien des moyens d'expliquer pourquoi l'homme est sur la terre, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et puis, bien sûr, la science. Nous allons nous intéresser à la science qui fait des recherches sur l'origine de l'univers pour tenter de comprendre les processus et par quel hasard mystérieux les choses ont pris place. Alors, on va comparer, bien sûr, ce que dit la parole de Dieu avec ce que dit la science aujourd'hui. On verra les points de convergence, les points de divergence, parce qu'il y a les deux. Donc la première partie, c'est l'origine de l'univers, mais selon la Bible. Et puis ensuite, nous parlerons de l'origine de l'univers, mais selon la science. Alors, dès les premiers temps de l'Église, les premiers chrétiens ont confessé que Dieu est un créateur. Vous avez le symbole de Nicée, par exemple. En 325 après Jésus-Christ, quand on dit le symbole de Nicée, c'est-à-dire c'est la première confession de foi des chrétiens. Donc on est en 325 après Jésus-Christ, c'est-à-dire très peu de temps après le christianisme qui est naissant. Alors ce qu'ils disent, vous le voyez sur l'écran, nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et toutes choses. Toutes les choses visibles et invisibles. Voilà comment les premiers chrétiens donc affirmaient leur foi dans la création et nous faisons de même aujourd'hui. Maintenant, qu'affirme la doctrine de la création ? Alors c'est l'image, c'est le point suivant. Elle affirme trois choses. La première, c'est que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Les spécialistes utilisent l'expression ex nihilo. À partir du néant. Vous avez Genèse 1:1 qu'on a lu tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa, mais c'est surtout ce verbe créer qui en français est traduit ainsi, mais qui en hébreu est le mot bara, qui signifie une création absolue à partir de rien. Voilà comment Dieu crée, il n'a pas besoin de matériaux, il n'a pas besoin d'éléments. Il dit simplement par sa parole, c'est le psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Voilà comment Dieu crée les choses. Donc la parole de Dieu en elle-même est suffisante pour créer. Enfin, dans le Nouveau Testament, dans Romains 4, 17, il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc on voit que pour Dieu, ce n'est pas un problème, il n'y a rien. Il parle et les choses prennent place, prennent vie. Enfin, Hébreux chapitre 11, verset 3, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. D'abord, il y avait le vide absolu, on va dire l'invisible, et maintenant ce que nous voyons provient de l'invisible. De l'invisible, Dieu a fait surgir la matière et puis a créé la vie. Voilà la première affirmation, donc nous avons dit, l'univers a été créé par Dieu à partir de rien. La deuxième affirmation, c'est que l'univers n'a pas toujours existé. La matière n'est pas éternelle, contrairement à ce que croyaient les philosophes grecs, Aristote, ou plus récemment les communistes avec Karl Marx. La Bible nous dit bien que l'univers a eu un commencement et qu'il aura une fin. Donc il est entre deux temps. Si vous allez jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que Dieu va créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, que les cieux et la terre d'à présent disparaîtront, et seront détruits. Il y a un texte qui le dit, c'est 2 Pierre 3:10. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, ça veut dire que la création disparaîtra dans le feu, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça nous étonne peut-être, mais Dieu fait ce qu'il veut avec sa création, et s'il a décidé de la détruire pour en créer une autre, il fait ce qu'il veut. En tout cas, ce sera le temps de la fin pour cette création actuelle. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, parce qu'il y aura une nouvelle création. Par ailleurs, la matière n'est pas mauvaise en soi, contrairement à aux philosophies bouddhistes ou hindouistes, ou de la science chrétienne, parce que Dieu a tout créé. Tout ce que Dieu a créé était bon, et même très bon, c'est dit dans la Genèse 1:31. Troisième affirmation concernant la création, et là on est toujours dans la Bible, c'est que l'univers dépend entièrement de Dieu pour sa subsistance. Si Dieu cessait de maintenir l'univers, l'univers s'effondrerait sur lui-même. On a Colossiens 1:17, « Toute chose subsiste, mais comment ? Elle subsiste en Christ. » Ça veut dire que si on enlève Christ, elles ne subsisteront pas. Donc tout l'univers subsiste en Christ. Le livre de Job, si il ne pensait qu'à lui-même, en parlant de Dieu, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ne soutenait pas sa création, s'il retirait son esprit, eh bien, tout disparaîtrait, tout s'effondrerait. Par sa providence, la Bible dit que Dieu même soutient encore aujourd'hui les hommes et les bêtes. Voilà les trois affirmations bibliques, toutes simples, c'est que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Deuxièmement, que l'univers n'a pas toujours existé. Et troisièmement, que l'univers dépend encore aujourd'hui de la providence de Dieu. Ça, c'est la partie de la Bible. Voilà comment la parole de Dieu présente la création. Maintenant, les hommes ont cherché aussi à expliquer la création avec leurs moyens. Donc, la première image, ce sont les mythes de la création qui ont existé dans l'Antiquité. La première image, c'est une tortue avec le monde sur son dos. Voilà comment les anciens croyaient que fonctionnait le monde. C'est-à-dire que la terre était plate, elle était comme une immense pièce de monnaie et qu'elle était sur trois tortues qui se superposaient l'une sur l'autre. Bien sûr, c'est un mythe. Mais des mythes, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un mythe chinois. Mythe chinois, Pangu, le créateur, c'est l'image suivante, avec son œuf. Il est sorti de son œuf lui-même, tout seul. Et puis, après avoir séparé le ciel et la terre, il est mort et sa mort a produit le monde. Sa tête, c'est devenu une montagne, son sang des rivières, ses cheveux, des étoiles. C'est encore un mythe. D'autres mythes, celui des Égyptiens, Ré par exemple, Ré qui s'est créé lui-même. Ça, c'est les Égyptiens. Il est surmonté d'un disque solaire et il représente un homme à tête de faucon surmonté d'un disque solaire. Et puis chez les Grecs, au commencement, c'était le chaos. De ce chaos a surgi la terre Gaïa qui a enfanté Uranos, le ciel, puis les montagnes, puis la mer. Et des mythes comme ceci, j'en ai mentionné que trois, mais il en existe des centaines, des centaines. Ce sont des tentatives des hommes à qui Dieu a donné l'intelligence, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à savoir, mais comment le monde est venu à exister. Et puis, au-delà des réflexions religieuses que j'ai mentionnées, il y a eu cette recherche scientifique qui a commencé au niveau des philosophes grecs, les premiers à avoir une approche rationaliste plus scientifique, ce sont les philosophes grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez Anaximandre de Milet qui a commencé à observer le monde comme quelque chose qui existe mais sans l'intervention de Dieu ou des dieux, parce qu'ils croyaient, ils étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Ils considéraient que le soleil n'était pas un dieu, mais un anneau lumineux, et que les étoiles, c'était des trous dans... ils croyaient à l'époque que le ciel, c'était comme une cuve, et qu'il y avait des orifices, et de ces orifices, il y avait des petites lumières qui passaient, c'était les étoiles. Mais ils ne voyaient pas des divinités dans les étoiles, ils ne voyaient pas ces choses-là. Donc, ils commencent à se détacher du religieux. Et puis, vous avez un peu plus loin Pythagore de Samos. Pythagore, tout le monde connaît son nom, parce que la plupart, on étudie ça à l'école, le théorème de Pythagore, mais Pythagore, c'est surtout, il voyait les mathématiques partout. Et pour lui, l'ordre et l'harmonie s'expliquent par les mathématiques. Les nombres, les équations, la musique, par exemple, dans l'image suivante, la musique est en fait totalement mathématique. Il a découvert qu'elle est composée de tierces, de quartes, de quintes pour faire des harmonies. Et tout cela est parfaitement logique et parfaitement mathématique. Et on peut le calculer. Quand on parle d'accords, par exemple, en musique, que ce soit au piano ou à la guitare, on parle de do septième ou de quinte, de cinquième ou alors de tierce. Tout cela, c'est commun. Mais ce n'est pas tout. Dans les nombres, on les voit partout, même dans la nature. Par exemple, cette suite de Fibonacci, on prend un nombre et on l'ajoute à son précédent, donc 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, etc. Et on continue, donc ça fait une suite de nombres, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et on peut continuer. Eh bien, cette suite qui est tout à fait logique et mathématique, on la retrouve par exemple dans la nature. Les marguerites suivent cet ordre logique. Donc on voit que la nature, qui paraît tellement hasardeuse, tellement libre, en fait, elle suit des processus, des principes logiques, mathématiques, qui peuvent s'expliquer. Regardez les flocons de neige dans l'image suivante. Les flocons de neige, le premier à les avoir photographiés s'appelait Wilson Bentley en 1885. Et il a été surpris de constater que chaque flocon qu'il photographiait était différent. Chaque flocon avait une structure mathématique, mais différente les uns des autres. Et donc, il y a des milliards de flocons qui sont tombés. Lui, il en a photographié 5000. C'est déjà une belle quantité. Et sur ces 5000, ils étaient tous différents. Et on a évalué que sur les milliards et les milliards et les milliards de flocons qui sont tombés depuis l'origine de la Terre, ils sont différents les uns des autres. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir que Dieu prend soin de tous les détails. Parce que Dieu, c'est comme un artiste. Même si vous regardez les poissons au fond de la mer, vous voyez qu'ils ont des couleurs extraordinaires, c'est l'harmonie, tout est extraordinaire. Et puis si on avance un petit peu dans l'histoire, vous avez Parménide, qui est un autre philosophe grec, qui lui a découvert que la Terre n'était pas plate comme on le croyait, mais qu'elle était sphérique. Comment il l'a découvert? En observant tout simplement à l'horizon, si vous observez l'horizon très loin et que vous voyez un bateau arriver, eh bien, vous commencerez par voir le haut du bateau, par exemple les voiles, et puis progressivement, vous allez voir le bas du bateau, la coque. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la Terre n'est pas plate, elle est sphérique. Donc c'est tout à fait logique de commencer par voir le mât, puis la coque. Et donc il l'a compris par observation. Aussi, en observant la Lune, il a vu que l'ombre projetée par la Terre sur la Lune était courbe. Et donc, il en a déduit que la Lune était une sphère, probablement comme la Terre est une sphère. Et ça, c'était révolutionnaire parce qu'on croyait toujours que la Terre était plate. Un peu plus loin, Anaxagore, qui reconnaît que le Soleil n'est qu'une pierre chauffée et que la Lune n'est qu'une pierre froide. Et puis, on arrive à Érastosthène dans l'image suivante. Lui, il arrive à évaluer la circonférence de la Terre par des calculs mathématiques, sans pouvoir le vérifier. Mais avec un théorème, il arrive à calculer 250 000 stades de circonférence, ce qui est tout à fait juste et extraordinaire pour l'époque, puisqu'il n'avait pas les moyens de mesure que nous avons. Ça correspond à 40 000 km, 250 000 stades, et c'est exactement la circonférence de la Terre. Il arrive même à évaluer la distance entre la Terre et la Lune. Là, il se trompe un peu, 320 000 km, en réalité 384 000, mais quand même, par ses calculs, il arrive à des chiffres assez, assez précis. On avance un petit peu dans l'histoire, toujours. Aristarque de Samos, on est en 310 avant Jésus-Christ. Lui, il arrive à estimer la distance entre la Terre et le Soleil, le diamètre du Soleil, et c'est le premier dans l'histoire à concevoir l'idée que le Soleil est au centre de l'univers et non pas la Terre. Parce que jusqu'à maintenant, et jusqu'à même bien des siècles qui vont suivre derrière, les gens croyaient que la Terre, tout tournait autour de la Terre. La Terre était au centre, et le Soleil, et puis la Lune, et les planètes tournaient autour de la Terre. Et lui, par ses observations, ses calculs, il en arrive à déduire que non, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. À l'époque, l'univers, c'est le système solaire. Donc, et que les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit, parce que tantôt on est face au Soleil, tantôt on est dos au Soleil. Donc il arrive à bien expliquer, mais c'est tellement énorme ce qu'il raconte que personne n'y croit à l'époque. Il est tout seul, et les autres scientifiques vont condamner cette théorie, qui était pourtant juste, mais elle était trop en avance sur son temps. Et le suivant, qui va marquer 1400 ans d'histoire à peu près, c'est Ptolémée, avec son récit « L'Almageste », qui est un recueil complet sur les astres, et lui, il revient à cette idée fondamentale, pour lui, c'est que la Terre est au centre de l'univers et que les planètes tournent autour de la Terre. Son influence a été tellement énorme que jusqu'au XVe siècle, donc entre le 1er siècle et le 15e siècle, c'est-à-dire pendant 1400 ans, on n'a pas remis en question cette idée que la Terre est au centre de l'univers et que les planètes tournent autour. Il a fallu arriver en 1400, la fin 1400, début 1500, avec Nicolas Copernic. Maintenant, on arrive dans l'époque moderne. Nicolas Copernic, astronome, il observe que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais que le Soleil est au centre et que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, c'est dans l'image suivante. Le Soleil est au centre de l'univers, et la Terre est une des planètes qui tourne autour. Alors ça a fait réagir beaucoup les scientifiques qui ne croyaient pas, et aussi les religieux comme Luther. Donc dans l'image suivante, vous avez cette intervention de Luther qui disait que Copernic, c'est un fou qui contredit les Écritures saintes. Parce que pour la plupart des croyants, ils s'alignaient sur la science de l'époque, qui consistait à croire que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil et les planètes tournaient autour de la Terre. Or, sur ce plan-là, Luther se trompait. Mais il s'est trompé parce qu'il s'appuyait sur la science de l'époque. Et Copernic publie son livre révolutionnaire, Des révolutions des sphères célestes. Alors, c'est un livre révolutionnaire, pourquoi ? Parce qu'il permet d'expliquer des choses qu'on ne comprenait pas jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, regardez dans l'image suivante, quand vous observez, par exemple, Mars depuis la Terre, voilà ce que vous voyez dans le ciel. Donc Mars, si vous l'observez régulièrement, vous allez voir qu'elle fait comme une boucle. Elle descend comme ça, puis elle fait un tour, et puis elle repart. Ce qui est tout à fait étrange comme comportement pour une planète, si elle tourne autour de la Terre. Mais regardez l'image suivante, c'est ce qu'a compris Kepler par ses observations. En bas, vous avez la Terre, mais il faut savoir que la Terre, elle tourne deux fois plus vite, à une vitesse deux fois plus importante que Mars. C'est pour ça que Mars, vous voyez, il avance tout doucement. Mais la Terre avançant deux fois plus vite, si vous observez Mars, en fait, depuis la Terre, si la Terre et Mars tournent en même temps, pas à la même vitesse, mais autour du Soleil, alors ça s'explique, cette espèce de boucle-là, qui serait très bizarre si Mars tournait autour de la Terre, parce que une planète qui fait une boucle et qui repart, ça n'a pas de sens. Mais dans ce système où le Soleil est au centre, que les planètes sont autour du Soleil, qu'elles ne tournent pas toutes à la même vitesse, alors on comprend pourquoi elles font des boucles par l'observation. Malgré ces explications qui sont très convaincantes, il n'a pas réussi à imposer son système. Et il a fallu attendre plus loin, Galilée, l'image suivante. Toujours un observateur. Lui, il observe avec le télescope le plus puissant de l'époque. C'est celui qui a, c'était une lunette grossissante, 60 fois, et il arrive à voir la Lune avec ses protubérances, il arrive à voir les satellites de Jupiter, et il était convaincu que le Soleil est au centre de l'univers et que tout tourne autour du Soleil. Et en février 1616, l'Église condamne cette vision des choses pour dire « ce n'est pas possible, c'est la Terre qui est au centre ». Et lui, croyant avoir l'assentiment du pape Urbain VIII, il écrit un ouvrage qui présente les deux systèmes, c'est-à-dire le système où la Terre est au centre et les planètes, le Soleil tourne autour, ou l'autre système où le Soleil est au centre et la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Il présente les deux systèmes, mais évidemment, dans sa présentation, ce qui ressort, c'est que c'est le système où le Soleil est au centre qui est le plus valable. Mais il est condamné pour grave hérésie parce qu'il est condamné en fait de contredire les Écritures. À partir de quel verset? Par exemple, le psaume 104, verset 5. Le psaume 104, verset 5 dit « Il, c'est Dieu, il a établi la terre sur des fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » Et à partir de ce verset, ils en ont déduit que la terre était sur comme des piliers, comme des pieux, alors que la Bible peut utiliser des images pour parler des choses. Ils ont pris donc littéralement des fondements où la terre était fixe, comme des piliers, et que tout tournait autour. Et c'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut comprendre qu'il y a des passages qui sont imagés et il y a des passages qui sont plutôt du type littéral. Mais l'interprétation de l'époque, en fait, était tellement lié à la science qui disait que la Terre est au centre de l'univers, qu'on comprenait la Bible de cette manière-là. Et regardez par exemple l'image suivante, c'est le cardinal Bellarmin qui a participé à cette condamnation. Il disait ceci, « Affirmer que la Terre tourne autour du Soleil, c'est aussi erroné que de prétendre que Jésus n'est pas né d'une vierge. » Donc on mélangeait vraiment la foi comme argument pour dénoncer la science, ce qui était une erreur. Et en 1633, donc, Galilée est condamné. Il est condamné à rester chez lui, à ne pas propager ses croyances. Et selon la légende, il aurait donc abjuré ses écrits, mais il aurait dit mais pourtant elle tourne. Pourtant elle tourne, c'est-à-dire la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, il y croyait quand même jusqu'au bout. Et puis, on arrive à l'époque moderne. On arrive à admettre de plus en plus que c'est le Soleil qui est au centre de la Terre maintenant, puisqu'on admet que la religion va s'occuper du spirituel et que la science va s'occuper des recherches. Et la science qui calcule l'âge de la Terre, elle arrive à des millions d'années. Donc dans l'image suivante, vous avez tous ces savants qui réfléchissent. D'abord, on a estimé la Terre, on est un peu avant 1900, à 500 millions d'années. Ensuite, 1 milliard d'années, en 1907. Et puis, après 1907, on a estimé qu'elle a toujours existé. Donc, que la Terre est éternelle. C'était toujours les scientifiques. Et la grande question des savants, dans cette première moitié, entre 1900 et 1950, c'était, est-ce que l'univers existe depuis toujours, ou est-ce qu'il a eu un début ? Et en réalité, la quasi-totalité des scientifiques croyaient que l'univers existait depuis toujours. Dont Albert Einstein. On arrive à Albert Einstein, on est dans 1920-1930, on arrive à ces grandes découvertes scientifiques. Il croyait que l'univers existait depuis toujours. Il élabore la théorie de la relativité restreinte, l'espace et le temps. Il nous explique qu'ils sont flexibles. Et il va les unifier dans c'est-à-dire on ne peut pas séparer l'espace et le temps, ils forment un tout. Et puis il découvre la particularité de la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, qui est constante quelle que soit notre propre vitesse. En fait, il nous fait découvrir, à l'époque, quelque chose qu'on ignorait, c'est que le temps ne passe pas à la même vitesse partout et pour tout le monde dans tout l'univers. Il y a du temps qui passe plus vite à certains endroits et moins vite à d'autres endroits. C'est étonnant, c'est étrange, mais c'est exact sur le plan des calculs. Notre idée du temps donc a été bousculée. Mais si vous lisez la Bible dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, c'était déjà mentionné cette vérité quand il est dit qu'il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça s'appelle la relativité du temps. Le temps est relatif pour Dieu, par exemple, et pour nous. Le temps ne passe pas du tout de la même manière. Et en fait, cette chose étrange, parce qu'à l'époque, on pensait que le temps, c'était comme l'horloge universelle, et que le temps passait pareil pour tout le monde dans tout l'univers, bien, ça a été prouvé en 1971 avec cette expérience de deux scientifiques qui sont montés dans un avion avec des horloges atomiques embarquées. Alors, ils ont mis une horloge atomique sur la Terre et une horloge atomique dans l'avion, mais réglée exactement à la même, au même millionième de seconde. C'est même pas millionième, c'est milliardième de seconde près. C'est-à-dire extrêmement précis, vous ne pouvez pas faire plus précis. Mais sur la Terre, et l'avion ne voyageait pas à la même vitesse. Et de fait, ils ont constaté, bon, il a fait pas mal d'heures de vol, l'avion, et ils ont constaté à son retour, à son atterrissage, qu'il y avait un décalage entre l'horloge embarquée et l'horloge qui était restée sur la Terre. Alors, pas beaucoup, hein, quelques milliardièmes de minutes, mais ça suffit pour montrer que si on augmentait la vitesse de l'avion, par exemple, par rapport à la Terre, eh bien, ça augmenterait aussi le temps, la différence de temps vécu sur la Terre ou vécu dans l'avion n'aurait pas eu la même gradation. Alors, évidemment, à nos vitesses, à nous, ça ne joue pas, ça n'a pas d'impact. Mais sur des vitesses comme la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, là, ça a un impact, là, ça change les choses. Donc, voilà tout ce que Albert Einstein a découvert, mais il croyait, donc c'est l'image. L'image suivante, c'est qu'il croyait quand même, bec et ongles, que l'univers existait depuis toujours, comme les scientifiques de l'époque le croyaient tous. Les choses vont changer avec un autre scientifique qui s'appelle Alexandre Friedman, qui est le premier physicien, il est assez peu connu d'ailleurs, et pourtant c'est le premier qui a, et c'est intéressant parce que les calculs d'Einstein en fait démontraient cela, mais Einstein pensait qu'il y avait une erreur dans ses calculs. Mais Alexandre Friedman a pris les calculs d'Einstein, il les a poussés jusqu'au bout et il en a conclu que l'univers était en expansion et qu'il partait d'un tout petit élément pour aller vers un plus grand. Donc, il a parlé d'un univers en expansion, peut-être jusqu'à un certain point, peut-être un effondrement sur lui-même, il ne savait pas. Mais il y a eu une controverse entre lui et Einstein, ils se sont disputés sur cette question parce qu'Einstein maintenait et ne voulait pas qu'on prenne ses calculs pour arriver à ces conclusions-là. Et lui, il maintenait que si ses calculs étaient justes, eh bien, on arrivait à cette conclusion. Donc, ils étaient absolument en désaccord. Arrive Georges Lemaître, qui a une particularité d'être à la fois prêtre et scientifique, physicien. Et lui, il reprend les calculs de Friedman et d'Einstein et il voit que c'est cohérent. Et il en arrive à concevoir que l'univers, en fait, n'est pas statique et éternel comme on le croyait, mais qu'il a eu un commencement. Et c'est lui le premier qui va parler d'un atome primitif. Tout est parti d'un atome primitif qui a explosé, si on peut dire comme ça, pour devenir l'univers actuel. On est en 1927. Donc vous avez Georges Lemaître qui va véritablement créer un séisme et tout de suite qui va être repoussé comme quelqu'un de dérangeant parce que il annonçait quelque chose sur l'origine de l'univers assez proche de la Bible, avec un commencement et une expansion. Quelque chose qui part de rien et qui arrive à quelque chose de grandiose. C'était assez rejeté d'emblée par la plupart des scientifiques, y compris Einstein d'ailleurs, qui restait fermement convaincu que non, l'univers est éternel et statique, il n'est pas en croissance. Arrive Edwin Hubble, un astronome américain, qui, lui, passe son temps à observer les galaxies. Alors, à l'époque, en fait, pour vous donner une idée, on imaginait que tout l'univers, c'était juste notre galaxie. Pour l'époque, l'univers était grand comme notre galaxie. C'est déjà assez grand, la galaxie dans laquelle on est. Mais il n'imaginait pas qu'en dehors de notre galaxie, il y avait d'autres galaxies avec d'autres étoiles encore. Et à force d'observer la galaxie, il a remarqué que, à l'extérieur de la galaxie, il y avait d'autres points lumineux. Et il s'est demandé qu'est-ce que c'était. Et il a découvert par ces télescopes géants qu'on faisait. D'ailleurs, le nom de Hubble a été nommé à un télescope qui a été envoyé dans l'espace. Télescope géant, qui permettent de voir très loin. Alors il a découvert que l'univers n'était pas simplement notre galaxie, mais qu'il était composé de milliards de galaxies. Ça a été énorme. Parce que l'univers, d'un coup, était beaucoup plus grand que ce qu'on n'avait jamais imaginé jusqu'à aujourd'hui. Et il parvient à calculer, en observant ces galaxies, qu'en fait, elles s'éloignent toutes les unes des autres. Ça signifie que l'univers est en train de s'étendre. Donc, la conclusion des scientifiques, c'est que si toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est qu'à un moment donné, si vous refaites le chemin inverse, c'est qu'elles étaient à un point concentré au départ. Donc, c'est un petit peu l'image du ballon sur l'écran. Pour expliquer scientifiquement l'extension de l'univers, on parle du ballon de Baudruche, vous voyez, il part de tout petit, plus vous soufflez dedans, plus, si vous dessinez des galaxies dessus, plus elles s'éloignent les unes des autres, et plus vous soufflez, plus elles s'éloignent. Mais si vous revenez à l'origine, elles étaient toutes concentrées dans un même petit espace. Et à partir de Hubble, donc, les affirmations de Lemaître qui disait « il y a eu un démarrage, l'univers n'a pas toujours existé, il y a eu une cellule primitive, un atome primitif qui a donné vie à tout cela », eh bien finalement ça a été accepté, c'est l'image suivante, c'est vous voyez la réconciliation entre Einstein et Georges Lemaître, la réconciliation entre le modèle d'un univers éternel qui a été abandonné avec un univers qui a eu un commencement, à un instant T, l'instant du Big Bang. On arrive en 1964, les scientifiques poursuivent toujours leurs recherches avec Gamow Alfer Hermann qui découvre une des preuves de cette expansion qu'on appelle le rayonnement électromagnétique issu de cette époque dense et chaude où l'univers était concentré. Alors c'est une sorte de photographie de l'univers, mais quand il avait 380 000 ans, au moment où la lumière a commencé à s'étendre, et c'est des rayonnements électromagnétiques qu'ils ont photographiés, donc c'est l'image où on voit cet univers avec ses couleurs. Ce sont des petites différences de température, en fait, très légères pour montrer que c'était uniforme, très uniforme. Et voilà la preuve qui a été rajoutée récemment donc de cette croissance, en tout cas, qui part de petit et qui grandit. Maintenant, d'où vient l'origine? La quatrième partie, c'est d'où vient l'origine de l'expression Big Bang, qui n'a pas toujours existé. J'ai dit que, disons, l'inventeur de cette idée, c'est Georges Lemaître, qui a parlé d'un atome primitif, c'est comme ça qu'on l'expliquait, c'est un atome primitif. Donc un atome, c'est... à l'époque, on croyait que l'atome, c'était la plus petite chose qui pouvait exister. Donc c'est parti de là, et que ça a explosé pour donner l'univers. Mais l'expression Big Bang est venue plus tard avec Fred Hoyle. Fred Hoyle, c'est un cosmologiste britannique, mais qui était un adversaire, un opposant à l'idée que l'univers a eu un commencement. Il maintenait, malgré toutes les découvertes et le changement d'avis d'Einstein, lui, il maintenait que non, l'univers est éternel. Et en 1950, dans une émission à la BBC, alors qu'il comparait les deux systèmes, c'est-à-dire le système éternel, stationnaire, un univers qui ne bouge pas, qui est toujours le même, et puis il parlait ensuite de l'univers qui commence à partir de rien, et il dit d'un ton dédaigneux, mais cette position est si ridicule qu'on dirait une sorte de Big Bang. Et c'est lui qui a donné le nom, en fait, au Big Bang, mais en fait, c'était pour le critiquer et pour lui nuire, et c'est lui, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est lui, alors qu'il y était farouchement opposé, qui a donné le nom porteur à cette théorie qu'on connaît tous, et finalement qui s'est répandue par sa popularité. Alors, on va expliquer maintenant précisément qu'est-ce que la théorie du Big Bang, comme elle est enseignée. C'est la troisième partie, donc la définition du Big Bang. Alors, il faut remonter très 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 longtemps en arrière, 13,8 milliards d'années. Et c'est là, vous le voyez. Est-ce que vous voyez le petit point blanc à côté de la flèche rouge? Voilà. L'univers, alors imaginez, voilà, c'était complètement vide, le vide absolu. Et l'univers était concentré dans ce petit espace, tellement petit, des milliards de fois plus petit qu'une tête d'épingle. En fait, c'est l'espace le plus petit qu'on peut imaginer, même calculé scientifiquement, parce qu'au bout d'un moment, quand vous essayez de réduire, vous arrivez à un moment où vous ne pouvez plus réduire. Donc c'est ce moment-là où on n'arrive plus à aller plus loin. C'est-à-dire 10⁻³ centimètres. 10⁻³ centimètres, c'est des millions de milliards de fois plus petit qu'un atome. C'est vraiment extrêmement petit. Et puis c'est remonté vraiment très 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 loin au commencement, à 10⁻²³ secondes, c'est-à-dire 0,430 et un 1. C'est-à-dire qu'une seconde, on peut la diviser encore en partie, mais au bout d'un moment, on ne peut plus. Et là, on arrive au maximum qu'on peut diviser une seconde, c'est ce temps, 10⁻². Et puis sa température est super élevée, 10⁻³² Kelvin, c'est-à-dire 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés. C'est quelque chose d'ahurissant au niveau de température. Vous voyez, on est dans les extrêmes. Donc l'idée de la théorie du Big Bang, c'est ça, c'est qu'on est parti d'un tout petit espace dans un temps tellement loin qu'on ne peut plus reculer plus loin, et à une température tellement élevée que c'est impossible de la reproduire. Et à ce moment-là se produit l'expansion. L'expansion qui part de tout petit, à 10⁻³ secondes, l'énergie commence à engendrer des particules. Au bout de 100 secondes, la température descend sous le milliard de degrés, ça favorise l'expansion. Et au bout de 380 000 ans, c'est l'image suivante, l'univers est 1000 fois plus chaud qu'aujourd'hui, encore 1 milliard de fois plus dense, mais déjà la lumière peut se propager et les atomes plus complets se former. Et 1 milliard d'années plus loin, les premières étoiles, les premières galaxies, et puis jusqu'à 13,8 milliards d'années. Aujourd'hui, l'univers est très étendu, quelques atomes par mètre cube, et très froid par rapport à l'origine. On a parlé de cette température de milliards de milliards de milliards de degrés. Aujourd'hui, l'univers est très 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 froid, moins 271 degrés. Alors l'univers aujourd'hui, regardez l'image suivante. On va commencer avec la Terre. La Terre, puisque on vit dessus, mais déjà, sans s'en rendre compte, on est en train de tourner sur nous-mêmes à la vitesse de 1666 km/h, puisque la Terre tourne sur elle-même. Mais non seulement elle tourne sur elle-même, comme une toupie, mais elle est en train de tourner autour du Soleil à la vitesse folle de 107 000 km/h, c'est-à-dire 30 000 km secondes, pour faire 930 millions de kilomètres en une année. Voilà la vitesse à laquelle nous circulons, sans même nous en rendre compte. La Terre, qui est la troisième planète, dans l'image suivante, on sait, troisième planète du système, donc le Soleil, la Terre, et puis les planètes qui tournent autour de la Terre. Le Soleil, qui lui est l'étoile de notre système solaire, c'est notre étoile. Le Soleil, c'est très chaud. Alors déjà, c'est énorme le Soleil, parce que si vous comparez la Terre et le Soleil, il fait 109 fois celui de la Terre. Donc c'est comme si vous pouviez mettre 109 fois la Terre dans le Soleil. C'est une énorme boule de feu à 15 millions de degrés au centre et 4 à 10 000 à la surface. Ça, c'est notre étoile. Sans cette étoile-là, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de chaleur, il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait rien. Mais on va aller plus loin. Donc on s'est intéressé à notre planète, au Soleil qui est au centre de notre système solaire, mais on va regarder le ciel maintenant, l'image suivante, c'est la Voie lactée. Ce qu'on appelle la Voie lactée, c'est notre galaxie. C'est ça que les gens croyaient jusqu'à Hubble, que c'était l'univers, ça. C'est-à-dire, c'est toutes les étoiles de notre propre galaxie. Et c'est déjà énorme. Si vous la regardez bien, en fait, selon les scientifiques, il y a, ne serait-ce que dans notre galaxie, 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Donc vous imaginez déjà le nombre d'étoiles. C'est colossal. Il y a un psaume 147, verset 4, qui dit ceci. « Dieu compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. » Dieu compte le nombre des étoiles. On n'est pas capable de compter exactement le nombre des étoiles. On fait des approximations, des estimations. Et si on devait compter 200 milliards, allez, en comptant 1, 2, 3, 1 seconde par étoile, il nous faudrait 6338 ans pour arriver au bout. Tellement c'est long. C'est énorme. Donc, on fait plutôt des calculs approximatifs en se basant sur des portions et en multipliant pour arriver à des chiffres approximatifs. La largeur de la galaxie, c'est 100 000 années-lumière, c'est-à-dire le temps que met la lumière pour traverser toute la galaxie d'un côté à l'autre, 100 000 années-lumière. Vous voyez la distance ? La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km secondes, c'est-à-dire extrêmement rapide. Mais bon, il lui faut quand même 100 000 ans pour traverser. Et vous voyez tous ces bras ? Le système solaire, il est sur un tout petit bras, qui est le plus petit, le bras d'Orion. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que moi je le vois bien d'ici, mais c'est le système solaire, il est marqué en jaune. Et en fait, il est bien situé à l'abri de beaucoup d'endroits dangereux. Et l'univers observable, donc j'ai dit ça, c'est une galaxie, mais maintenant, sur l'image suivante, comme Hubble l'a vu avec son télescope, il est composé de centaines de milliards. On estime une centaine de milliards de galaxies, comme la nôtre, ou plus grande ou plus petite, mais des galaxies. Voyez le petit carré rouge en bas à gauche. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait voir avec les télescopes, c'est-à-dire rien, c'était tout noir. Et ce carré rouge, il est reproduit en immense ici, c'est avec le champ profond de Hubble, ce télescope qu'on a envoyé dans l'espace. Et en fait, ce qu'on ne voyait pas de la Terre, on le voit beaucoup mieux de l'espace. Et vous voyez qu'un carré qui apparaît noir sur la Terre, ben en fait, il est rempli de galaxies. Tous les petits points que vous voyez, c'est des galaxies. Des galaxies aussi grandes que la nôtre. Donc ça donne un peu le vertige. L'image suivante, c'est l'univers observable. Alors, pourquoi on dit observable ? C'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus voir plus loin. C'est-à-dire, c'est le noir, l'obscurité. La lumière n'arrive même plus à parvenir jusqu'à nous. Il y a des étoiles tellement lointaines que la lumière n'arrive plus jusqu'à nous. Donc voilà, l'univers observable, il est très très large, 46,5 milliards d'années de rayon, soit 93 milliards d'années lumière de diamètre. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui, dans l'image suivante, ne sont pas l'exacte représentation de ce qui est. Pourquoi ? Parce que la lumière qu'elles émettent met tellement de temps à arriver jusqu'à nous qu'on les voit comme elles étaient avant, mais pas comme elles sont maintenant. Par exemple, le Soleil, ne serait-ce que le Soleil. Pourtant, c'est la plus proche étoile, c'est notre Soleil, c'est notre système solaire, donc elle est vraiment bien proche. Eh bien, il faut quand même 8 minutes pour que les rayons du Soleil atteignent la Terre. Il faut quand même 8 minutes. Ça veut dire que le Soleil, quand on le voit briller comme il brillait il y a 8 minutes. Il y a toujours un décalage. Mais le décalage s'accentue avec la distance. Si vous regardez Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, donc on a le Soleil, c'est notre étoile, on va regarder l'étoile qui est la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, eh bien il lui faut 4 ans quand même. 4 ans pour que cette étoile, sa lumière parvienne jusqu'à nous. Donc on la regarde, on l'observe telle qu'elle était il y a 4 ans. Et puis si vous allez plus loin, la galaxie la plus proche, c'est Andromède. Donc nous, notre galaxie, on l'appelle la Voie lactée. Andromède, c'est une autre galaxie, mais elle est quand même... Il faut 2,55 millions d'années à la lumière pour arriver jusqu'à nous. Vous voyez les distances. Ça fait beaucoup. Donc vous voyez, quand vous regardez cette galaxie, donc dans les télescopes, vous ne la voyez pas telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, mais il a fallu tellement de temps que la lumière vienne que vous la voyez comme elle était il y a 2,5 millions d'années. Et c'est pour ça que les étoiles les plus éloignées sont observées telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. L'univers demain maintenant. Si on avance dans les perspectives, on estime que, selon les scientifiques, le Soleil va continuer de briller 5 milliards d'années. Parce qu'en fait, il est en train d'épuiser son énergie. Il est en train de tout vider. Mais enfin, il y a quand même de la marge. 5 milliards d'années, ça laisse pas mal de temps. Puis, alors dans l'image suivante, selon les spécialiste, il va augmenter de volume, devenir une géante rouge, et commencera à avaler toutes les étoiles qui sont les plus proches, toutes les planètes qui sont les plus proches, dont la Terre. C'est pour ça que la Terre, même selon les scientifiques, elle terminera dans le feu. Elle sera embrasée. Ça, c'est l'hypothèse généralement admise aujourd'hui. C'est que l'univers est en train de s'étendre. Il est en train de consommer toute son énergie et il finira par mourir après avoir épuisé son carburant. Ça, c'est les scientifiques. À une époque, ils croyaient que l'univers était capable de revenir en arrière. Une fois qu'il est allé assez loin, qu'il pourrait revenir à sa situation initiale, ce qu'on appelle le Big Crunch, qui a été abandonné, étant donné l'accélération exponentielle des galaxies les unes des autres. J'en arrive à une quatrième partie, c'est maintenant comparons la Bible et le Big Bang, quels sont les points de convergence. Après la validation scientifique du Big Bang, donc on a vu que Georges Lemaître a parlé au pape, c'était le pape Pie XII, mais le pape Pie XII, il était enthousiasmé, il a dit « mais c'est la science qui confirme la Bible ». Plus la science progresse, il dit, plus elle découvre Dieu. La science a réussi à se faire témoin du fiat lux, le premier moment, le premier instant où la lumière a jailli. Mais le maître, lui, était plus scientifique et il calmait un petit peu les ardeurs de ce pape fougueux. Alors, quels sont les points communs entre la Bible et la science ? Le premier point commun, c'est qu'il y a eu un commencement. Et c'est les premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Premier point commun, c'est l'univers n'est pas éternel, mais il a commencé à exister un jour. Par exemple, psaume 33,6 dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel ». Donc, ils n'ont pas toujours existé. Ils ont été faits. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Deuxième point commun, le visible provient de l'invisible. C'est vrai aussi pour les scientifiques, puisque à l'origine, il n'y avait rien de visible et c'est devenu visible dans un deuxième temps. Et ça, c'est indiqué dans Hébreux 11,3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'invisible était en premier, le visible est venu en second. Là, il y a accord. Ensuite, la matière provient de l'énergie. D'abord, il y a eu l'énergie et ensuite la matière. Alors, la Bible présente d'abord la lumière, l'énergie et ensuite la création matérielle. Donc, là aussi, il y a point commun. Autre point commun, c'est le soleil et la lune. Pour les scientifiques, le soleil et la lune ne sont que des astres lumineux, bien pour la Bible aussi. À une époque où on croyait que le soleil et la lune étaient des dieux, lorsque Moïse a écrit la Genèse, il a décrit le soleil comme une création de Dieu, un astre, et la lune comme un astre. Donc ce n'est pas des dieux. Et ça, c'est dans un contexte où toutes les populations adoraient la lune et le soleil. Pour eux, c'était des dieux. Et même Moïse, si vous regardez, la Bible dit qu'il a été élevé dans toute la science et la sagesse des Égyptiens. Et les Égyptiens croyaient ces choses. Mais quand il a fallu écrire les révélations, il ne s'est pas appuyé sur la science des Égyptiens, il s'est appuyé sur la révélation de Dieu. Et il a écrit le Pentateuque. Enfin, cinquième point d'accord, c'est que l'univers aura une fin. Et ça, c'est expliqué dans la science par le principe de thermodynamique, c'est-à-dire que l'univers vieillit et s'achemine vers une mort. Et c'est écrit dans le psaume 102, un petit peu la même chose avec d'autres mots, psaume 102, verset 26. « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. » Donc, même la création de Dieu, Dieu affirme que sa propre création est en train de s'user et un jour va disparaître. La Terre même, ce que croient les scientifiques, je l'ai dit tout à l'heure, avec ce soleil qui va devenir une géante rouge, donc pour eux, la Terre disparaîtra dans le feu. Mais c'est un peu ce qu'explique la Bible dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour, les cieux passeront avec fracas. » Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. On voit bien qu'il y a une destruction par le feu. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Alors, il est question de création qui disparaît dans le feu. Alors on se rend compte que l'homme est capable de croire des choses totalement ahurissantes, incroyables, extraordinaires, comme l'idée qu'à un moment donné, toute la masse de l'univers, toutes les galaxies, tout ce qui nous entoure en fait, était concentré dans un espace plus petit qu'une tête d'épingle. C'est assez extraordinaire d'arriver à penser ça. C'est l'homme qui est capable de croire des choses extraordinaires, incroyables. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il est capable non seulement de se projeter sur des choses incroyables, mais en même temps de croire même qu'est-ce qu'il y a après la mort. La pensée de l'éternité va même plus loin que ce qu'il y a sur la terre et le tangible. Maintenant, il y a aussi des points de désaccord entre la Bible et la science. J'en ai relevé 4. Pour la science, tout provient du hasard. C'est le hasard, c'est par hasard que cette matière s'est mise en mouvement pour donner ce que nous voyons aujourd'hui. Donc le hasard est la cause première. La création, quand nous sommes chrétiens, pour nous, nous rejetons l'idée que le hasard est à l'origine de tout. Bon, pour les scientifiques, c'est pas un problème, c'est le hasard, c'est par hasard, ça aurait pu très bien ne jamais exister. Voilà. Deuxième point de désaccord, c'est l'insignifiance de la Terre par rapport au cosmos. Ben pour les scientifiques, voilà, elle est perdue dans une galaxie perdue, au fond, dans un immense univers, et ils ne voient pas la main de Dieu là-dedans. Ils disent, la plupart des scientifiques disent, ben, la Terre, de toute façon, elle aurait pu très bien ne jamais exister. C'est encore un hasard. Le hasard a fait que l'univers existe, c'était déjà un grand coup de hasard. Mais il y a eu un deuxième grand coup de chance, c'est que la Terre était bien placée au bon endroit, près du Soleil. Tout ça, c'est le hasard. Le troisième point de désaccord, c'est que pour les scientifiques, la vie, l'univers, tout ce qui nous entoure provient de lois physiques et non pas d'un Dieu créateur. Donc ce sont des lois physiques qui préexistaient et qui ont permis la vie. Mais on ne parle pas de Dieu, on parle de lois. Maintenant, comment ces lois existent-elles? Qui les a établies? Pourquoi sont-elles là? Ça, c'est une autre question. Et enfin, pour les scientifiques, l'approche est principalement rationaliste et du domaine de l'observation tangible, rejetant toute pensée au-delà du tangible, au-delà de l'observable. Donc, finalement, rejetant Dieu, rejetant quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la science. Donc ça limite le champ d'observation de la science, puisque la science ne va faire ses déductions, ses observations, que sur ce qui peut être prouvé ou de ce qu'on peut voir, ou au moins calculer. Donc ça fait quand même aussi des points de désaccord. Maintenant, quelques questions en suspens pour terminer. La première question en suspens, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. C'est-à-dire, même selon les scientifiques, ils se posent la question, et on doit admettre que toute théorie cosmologique pour expliquer l'origine de l'univers doit tenir compte du fait que cet univers a évolué à un moment donné pour qu'on apparaisse, nous. Et c'est déjà assez extraordinaire de concevoir quelque chose d'aussi complexe qui puisse arriver jusqu'à nous, notre existence, parce qu'il faut quand même beaucoup de paramètres pour qu'on puisse exister. Donc l'univers doit avoir des lois, des paramètres fondamentaux, afin qu'un jour, il y ait des êtres évolués qui puissent vivre dans cet univers. Et les scientifiques ont découvert quelque chose d'assez extraordinaire, sans être croyants. Ils ont découvert que dès le début de l'origine de l'univers, il y avait un réglage fin, ils l'appellent comme ça, un réglage fin, c'est-à-dire des nombres, des lois qui étaient présentes, mais minutieusement ajustées. Finement ajusté. Par exemple, j'ai mis sur la diapo quelques chiffres. Par exemple, la vitesse de la lumière était déjà une constante, ainsi que pi, le nombre pi, la force électromagnétique. Alors pi, c'est un nombre extraordinaire parce qu'on en voit, on n'arrive pas à le calculer dans sa totalité. Il est toujours en train d'être étudié parce que c'est un nombre qui ne termine pas. Alors, un scientifique qui s'appelle Martin Rees, qui est un astronome britannique, né en 1942, a écrit un ouvrage intitulé « Just Six Numbers », c'est-à-dire en français « juste si nombre ». Et il en a conclu, par son observation, que la totalité de l'existence de l'univers dépend de ces six paramètres qui étaient déjà en place au moment du Big Bang, dont la gravité, la force de la gravité était déjà là, par exemple. Ces paramètres qui sont tellement précis, qui sont mesurés à la décimale près, il a étudié que si on modifiait ne serait-ce qu'un tout petit peu un paramètre, ça ne pouvait pas aboutir. Donc il y a quelque chose qui était là en place, dès le début, qui est précis, qu'il ne fallait pas bouger pour que tout ça, ça se passe comme ça. Une modification quelconque d'un seul paramètre, eh bien, ça aurait altéré gravement l'évolution de l'univers. Il aurait été stérile, ou il se serait renfermé sur lui-même, ou il aurait été détruit dès sa naissance. Tout se passe comme si les six cadrans ont dicté l'évolution de l'univers et avaient été ajustés avec soin pour créer les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Voilà comment ils voient les choses. Alors ce ne sont pas forcément des chrétiens, ce ne sont pas des croyants, mais ce sont des scientifiques qui analysent et qui se posent des questions. Oui, ces chiffres existaient, oui, ces nombres et ces lois étaient là, mais d'où viennent-ils? Qui les a placés comme cela? Mystère. Là encore, certains arrivent à admettre que ça n'est pas possible, que ça soit du pur hasard qui ait permis cela. Qu'à un moment donné, il faut une intelligence ou ils ne parleront pas nécessairement de Dieu, mais ils parleront de dessin intelligent, intelligence design, qui permet que les choses prennent place. Un autre éminent scientifique, Richard Feynman, prix Nobel de physique en 1965, dit ceci: « Nous utilisons des chiffres dans toutes nos théories, mais nous ne comprenons pas ni ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent. » Les chiffres sont là. C'est des données qui sont là. On ne comprend pas pourquoi ils sont là, pourquoi ça fonctionne, mais c'est là. Alors là, il y a deux possibilités, deux réponses possibles à la question d'où viennent ces nombres. Soit c'est le hasard qui a permis que, par bonheur, tous ces chiffres se coordonnent, ces lois s'harmonisent et que ça crée un ensemble viable, ou soit il y a un créateur qui a permis ces choses. Vous voyez, c'est deux possibilités. Un autre physicien qui s'appelle Freeman Dyson dit ceci: « Plus j'examine l'univers et les détails de son architecture, plus je trouve de preuves qu'en un certain sens, il devait savoir que nous allions venir. » J'observe, ça paraît tellement logique. D'après les lois, d'après les lois physiques, les chiffres qui sont là, eh bien, ça permettait l'arrivée de la vie. Max Planck, fondateur de la mécanique quantique, il dit ceci: toute la matière trouve son origine et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Alors, ils ne parleront pas de Dieu. Ils ne parleront pas d'un Dieu créateur. Ils parleront d'un esprit. Ils parleront d'un grand architecte, ils parleront d'un dessin intelligent. Mais en réalité, avec ces mots, de quoi ils parlent? Ils sont en train de parler d'un créateur. Un autre qui s'appelle Stephen Hawking, un physicien, théoricien et cosmologique de renommée internationale, qui dit ceci: les lois de la physique, nous le savons aujourd'hui, contiennent beaucoup de nombres fondamentaux, depuis le début. La valeur de ces nombres semble avoir été finement ajustée. Là, il parle de l'origine, ça a été finement ajusté dès le départ pour rendre possible le développement de la vie. Donc, ce sont des scientifiques de dimension internationale. Lui, c'est un athée, par contre. Il est complètement athée, il ne croit absolument pas en Dieu, mais il reconnaît que dès le départ, il y a eu un ajustement fin. Xuan Tan Trinh, un astronome et professeur d'astrophysique, changer un tant soit peu les conditions initiales, c'est-à-dire au moment du Big Bang, et les constantes physiques, ces fameux chiffres dont on parle, les nombres mystérieux, et l'univers serait vide et stérile, et nous ne serions pas là pour en parler. Ils sont tous conscients de cela. Il dit un peu plus loin, il dit « Je pense personnellement qu'il y a un principe créateur. » Vous voyez, toujours, on tourne autour du pot. Il n'est pas croyant. Enfin, il est bouddhiste. Il est bouddhiste. Il ne croit pas dans un Dieu créateur, mais il parle d'un principe créateur, et ça, pour les bouddhistes même, c'est énorme, parce que Ce n'est pas dans la conception du bouddhisme. Donc il se détache lui-même de sa propre religion pour croire dans un principe créateur qui n'est pas du tout dans la philosophie du bouddhisme, mais juste par l'observation qu'il constate. Il dit qui a été réglé depuis le début, et je pense qu'il y a un univers unique. Un autre chercheur qui s'appelle Jean Stone a calculé, lui, la probabilité de chance qu'on aurait de faire émerger la vie dans un océan avec les collisions, parce que c'est ça l'idée, c'est que la vie a surgi de l'océan par hasard. Alors il a fait des calculs. La vie n'aurait pas dû apparaître, car quel que soit le chemin pour produire une molécule donnée, l'exploitation des diverses probabilités demande plus de temps que l'âge de la Terre. Il aurait fallu tellement de milliards d'années que ce n'est pas assez long le temps de la Terre. Il conclut que pour arriver à obtenir la vie, il faut intégrer une volonté. Mettre les choses dans un certain ordre. Sinon, ça ne fonctionne pas par hasard. Bon, le principe anthropique, vous le trouvez par exemple dans tout l'univers. Si la Lune, par exemple, si la Lune n'existait pas, l'axe de la Terre aurait changé constamment et la vie serait impossible sur la Terre. Donc tout est coordonné. Si la distance moyenne des étoiles dans notre galaxie avait été différente, la vie ne serait pas possible. Si la quantité de matière de l'univers était différente, la force d'inertie sur la Terre aurait modifié et la vie aurait été impossible. En fait, on se rend compte que tout est coordonné. Le Soleil est particulier aussi. Sa masse est supérieure à 90% des étoiles de notre galaxie. Si sa masse du Soleil avait été différente, la vie n'aurait pas été possible. Donc l'homme n'est pas isolé sur sa planète, mais en fait nous dépendons de toutes les autres planètes, des étoiles, de tout ce que Dieu a créé. On va lire un texte dans Actes chapitre 17 et verset 24 pour vous montrer ceci. Voilà comment Paul, lui, affirme sa foi dans le Dieu créateur. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes ces choses, il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors regardez ces scientifiques. Ils sont en train de chercher et de tâtonner. Et ils tournent autour du pot. Ils tournent autour de la question d'un Dieu créateur. Mais le Seigneur le permet. Et à un moment donné, certains franchissent le pas de la foi. Il y a aussi des scientifiques qui deviennent chrétiens. Et un petit peu plus loin dans son discours, toujours dans Actes 17 et au verset 30, il continue « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce donc maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. » Et là, Paul montre le chemin de la foi. La repentance, demander pardon pour ses péchés et accepter l'œuvre de la croix. Il a fixé un jour où il jugera le monde, selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et il parle de Jésus qui est mort pour nos péchés et qui nous a pardonnés. Donc on voit que pour Paul, ce n'est pas un problème de parler de la création, de dire que les hommes cherchent en tâtonnant et de montrer que le chemin, il est dans la repentance et la foi. Une autre question, c'est ce qu'on appelle les multivers. Multivers pour plusieurs univers. C'est la question des scientifiques, et celle-ci, c'est est-ce qu'il y a un seul univers ou est-ce qu'il y en a d'autres à côté de notre univers? Bon, évidemment, c'est impossible à prouver qu'il y ait d'autres univers à côté de notre univers, mais c'est une question de scientifiques. Ils imaginent qu'il pourrait y avoir des milliards de milliards d'univers en plus de notre univers. Vous voyez que l'imagination n'a pas de limite. Certains univers pourraient être stériles, d'autres éphémères, d'autres produire la vie. Vous voyez sur l'image suivante, c'est Alan Gutt, qui est un cosmologiste américain. Voilà ce qu'il propose, lui, comme explication. Parce qu'il faut quand même admettre que c'est un grand coup de chance pour les scientifiques qu'on arrive à un univers qui fonctionne. Mais il se dit, mais c'est obligé parce que sur les milliards de milliards de milliards d'univers qui existent, ben, il y en a au moins un qui a fonctionné, c'est le nôtre. Mais il imagine que dans tous les autres, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de vie, les lois physiques sont différentes. Alors, c'est pour ça qu'il parle de multivers en bulles de champagne. Dans l'image suivante, un verre de champagne, ça génère 10 millions de bulles. Et ils imaginent qu'il y a des millions d'univers qui sont générés comme ça, mystérieusement, partout. Et c'est totalement invérifiable, mais ça, c'est la science et sa quête d'explication. Pourquoi ils en arrivent là? Parce qu'ils se disent, il faut quand même une chance assez incroyable pour qu'il y ait un univers qui fonctionne. Donc, pour qu'il y en ait un qui fonctionne, il faut imaginer qu'il y en a des milliards de milliards qui n'ont pas fonctionné. Et au moins, il y en a un qui a réussi, c'est le nôtre. Ça permet d'éviter de parler d'un Dieu créateur. Mais absolument invérifiable, indémontrable. C'est la pure théorie. Enfin, une autre question, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est limité dans l'observation, c'est les scientifiques eux-mêmes. On ne peut pas remonter plus loin que le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, et puis que cet espace tout petit, 10 puissance moins 33 centimètres, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Et donc, il s'oriente vers la physique quantique pour tenter de trouver des réponses au mystère. Parce qu'en fait, dans la physique quantique, il y a un principe d'incertitude qui existe à l'échelle de l'infiniment petit, et on imagine que ça a pu se produire au démarrage de l'univers. Donc des phénomènes qui se seraient déroulés spontanément, sans explication rationnelle. Selon cette hypothèse, l'univers donc aurait surgi comme ça du néant, de rien, sans explication rationnelle, à partir de la physique quantique. Voilà Alan Guth sur l'image suivante. On dit souvent qu'on n'a rien sans rien, sa conclusion à lui, mais l'univers lui-même est peut-être né de rien. Comme ça, d'un coup. Alors, la palme de la citation, pour moi, c'est Stephen Hawking, dans la suivante. Parce qu'écoutez bien ce qu'il dit. En raison de la gravité, l'univers peut se créer lui-même à partir de rien et sans Dieu. Alors ça, c'est quelqu'un qui croit dans un miracle absolu, c'est-à-dire que l'univers se crée lui-même, mais en fait, il croit dans le miracle absolu sans croire en Dieu qui fait le miracle. C'est encore plus énorme que les chrétiens, si vous regardez. Il faut encore plus d'audace. Je ne sais pas si les chrétiens auraient cette audace de croire à une chose pareille. Mais lui, il a de l'audace de croire que oui, il y a quelque chose de miraculeux qui est là, un univers qui se crée tout seul, mais qu'en même temps, il s'est fait tout seul sans même l'existence de Dieu, qui pourtant, c'est Dieu qui fait des miracles. Il y a un verset qui dit dans la Bible que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et pourtant, ce sont des gens, alors lui, il est décédé aujourd'hui, mais qui étaient vraiment reconnus internationalement comme des sommités et des gens très, très calés. En conclusion, il convient d'être prudent en tout ce qui concerne la théorie du Big Bang, puisque, vous le savez, la science poursuit toujours ses investigations et les découvertes d'aujourd'hui ou de demain remettent en question ce qui a été appris dans le passé. Donc, la science continue son évolution, ses recherches, dans toutes les directions d'ailleurs, pas que dans la direction du Big Bang, puisque les scientifiques cherchent d'autres explications que le Big Bang, comme la théorie des cordes, avec un univers à plusieurs dimensions, pas seulement 4, mais 10 ou davantage. Tandis que la Bible, de son côté, elle annonce toujours le même message, c'est qu'à l'origine, il n'y avait rien, mais que Dieu, par sa parole, a créé les cieux et la terre, l'univers et tout ce qui nous entoure. Donc le message de la Bible, lui, il n'évoluera pas, il ne changera pas, il est toujours celui d'un Dieu créateur. La science peut-être changera d'avis par rapport au Big Bang. Mais la Bible, elle reste ferme. Et c'est le cas des croyants dans Hébreux chapitre 11, verset 3, ce sera le verset de conclusion, puisque ce verset met en avant la foi. Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà pour le chrétien ce qui fait sa conviction, c'est la foi, c'est-à-dire croire déjà en Jésus, accepter Dieu comme dans notre cœur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et nous permettre de croire les choses qui sont dans sa parole. Voilà en ce qui concerne la conférence. Maintenant, je voulais laisser un temps aussi de questions, puisque c'était l'idée, si vous avez des questions. Et puis pour ce faire, on a un micro. Je ne sais pas où il est le micro. Ah, il est là. pour qu'on vous entende bien. Si vous avez une question, ce serait intéressant. Si on peut y répondre, bah de le partager, bien, on vous donnera le micro. Oui, tu as une question ? Est-ce que quelqu'un... Alors, voilà, je chante. Voilà, une question. Vas-y, parle bien fort dans le micro.
Est-ce que dans les autres galaxies, est-ce qu'il y a d'autres êtres vivants ?
Ah, est-ce qu'il y a d'autres êtres vivants ?
Oui.
En dehors de nous. Alors ça, c'est une grande question. Moi, à ma connaissance, je ne peux pas trop répondre parce que je n'en sais rien. Je pense que non. Mais maintenant, qu'il y ait la possibilité de vie, en tout cas Dieu créant la vie, tout est possible à Dieu. Mais je pense qu'en tout cas, pour la création de la Terre, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel, de particulier. Après, des bactéries, des formes de vie extrêmement élémentaires, puisque Dieu est créateur et peut créer la vie où bon lui semble. Mais en tout cas, de ce qu'on voit dans la Bible, c'est que c'est pour la Terre qu'il y a un plan particulier avec la vie et la vie telle que nous la connaissons. Voilà. Oui ? Ah, ben c'est les plus jeunes qui commencent.
Est-ce que au début du commencement, mais tout était noir, et comment ça a été créé comme si c'était tout noir?
Ah, comment tout a été créé? Ben, la Bible, elle dit que c'est par la parole de Dieu, effectivement, qu'il n'y avait rien. En fait, avant qu'il n'y ait rien, il y avait toujours Dieu. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit existent depuis toujours. Donc eux, ils sont toujours présents. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de création. Et c'est au moment où Dieu a parlé, que ben, les choses se sont mises en mouvement pour créer l'univers. Voilà. C'est au moment de la parole de Dieu. Donc c'est vrai que on ne sait pas si nécessairement c'était l'obscurité, parce qu'il y a des versets qui montrent que Dieu est lumière et qu'il n'est pas forcément dans l'obscurité non plus. Donc on imagine, nous, l'obscurité, parce qu'on imagine... Rien égale obscurité, ça c'est dans notre manière de réfléchir. Mais pour Dieu, rien peut vouloir dire lumière aussi. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Ah, une autre question. Dominique.
Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semble que tu as dit qu'en fait, la création actuelle serait détruite. Et qu'il y aurait une création d'une autre chose nouvelle. Mmh. Je voulais juste comprendre si c'était une pensée biblique ou une pensée scientifique, et sur quoi elle reposait, cette affirmation.
Alors nous, ça c'est une pensée biblique, puisque vous l'avez clairement écrit dans la Bible à la fin de l'Apocalypse, que les cieux et la terre d'à présent disparaissent, et que Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc c'est biblique. Et la Bible affirme la disparition de la création actuelle et la création toute nouvelle de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et c'est celle-là qui est éternelle. Parce que la création actuelle est temporaire ou temporelle. Elle n'est que pour une durée. Voilà, on ne sait pas combien de temps encore, jusqu'au retour du Seigneur. Mais après, cette création-là s'achèvera. Et par contre, on a du mal à imaginer quel type de création sera éternelle ensuite. Mais c'est un petit peu comme nous les croyants. Une fois que nous ressusciterons, nous serons éternels aussi. Donc on n'aura pas le même corps. On pourra se reconnaître, on pourra parler et tout, mais on n'aura pas le même corps. Ce sera un corps éternel. Donc la création, ça sera éternel pour des gens éternels. Donc ça sera une nouvelle création avec d'autres lois, d'autres paramètres, un autre univers. Voilà. Ah, deux autres questions, une là et une là-bas.
Oui, et ça me fait penser par rapport à ce que dit la Bible sur le fait qu'il y a un autre univers, mais qui n'est pas encore reconnu par la science. C'est que, par contre, Lavoisier, qui est un célèbre chimiste, il a dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, quelque part, il y a déjà certains... Il y a un chimiste et le monde scientifique qui l'ont déjà... on va dire, analyser, théoriser, il n'y a plus qu'à le comprendre finalement. Quoi. Mmh. Je pensais à ça. Et je pensais à une autre chose qui a été dit sur le fait que d'autres vies peuvent d'autres vies humaines ou autres existeraient sur une autre planète. Alors, d'un point de vue biblique, il y a un passage de la Bible qui dit que l'homme ne vivra qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Enfin, d'un point de vue biblique, je me suis dit que comme Jésus, enfin, c'est un point de vue seulement chrétien, c'est, si Jésus était du coup pleinement homme, comme il était pleinement Dieu et pleinement homme, d'un point de vue chrétien, ben, finalement, il n'y aura pas d'autres sacrifices pour le salut de tout l'univers. Donc,
oui, ce qui concerne la vie humaine, oui, on peut être assez affirmatif pour dire que nous croyons qu'il n'y a qu'une seule forme de vie humaine comme la nôtre et que Jésus n'est mort que pour le plan rédempteur et pour les humains.
Dernière chose, les scientifiques parlent de l'épuisement de l'énergie progressivement. Donc, en fait, ça fait penser à, finalement, quelque chose non seulement qui a été défini au niveau du temps dès le début, ce qu'on a dit, mais au niveau de la force en elle-même. Ouais. Elle ne se renouvelle pas, la force physique. Et ça a été théorisé comme
la force... C'est les lois de thermodynamique, c'est-à-dire que les éléments s'usent avec le temps et vont s'éteindre. Alors évidemment, c'est sur des aisselles pour les scientifiques de milliards d'années. Ce n'est pas en 3 jours ou 15 jours. C'est sur des milliards d'années. Mais le processus, en fait, est enclenché et c'était dès le départ. Les lois étaient comme ça. Donc, ce n'est pas un univers éternel. C'est un univers temporel, même pour les scientifiques, qui a un commencement et qui s'éteindra. Mais qui s'éteindra pour eux dans des milliards et des milliards d'années. Ils n'ont pas la notion du proche comme nous, que le Seigneur peut revenir à tout instant. Nous, on croit que tout peut s'arrêter rapidement. Pour eux, c'est dans des milliards et des milliards, parce qu'il y a encore du combustible, même le Soleil, 5 milliards d'années, rien que le Soleil. Alors imaginez toutes les autres planètes, les autres étoiles, ils ont du combustible et du combustible, ils en ont. Mais le Soleil, il s'arrêtera lui aussi. Toutes les étoiles s'arrêteront. Voilà, ça c'est selon les scientifiques. C'est bon ? Il y avait encore une question, oui, là-bas.
En fait, je voulais juste revenir par rapport à ce qu'a dit Dominique.
Oui.
Je suis désolée, mais qu'est-ce qui différencie, pour le coup, par rapport au principe des témoins de Jéhovah ?
Ah. Alors, qu'est-ce qui différencie quoi et quoi ? Les chrétiens et les témoins de Jéhovah ?
Non, mais par rapport à la création d'une nouvelle terre.
Les témoins de Jéhovah, c'est différent. Les témoins de Jéhovah, eux, ils croient que, déjà, que les êtres humains n'ont pas d'âme et que quand ils meurent, tout disparaît. Mais que seuls les témoins de Jéhovah reviendront à la vie sur la terre, et eux, ils croient ça. Ils croient qu'il y aura une terre qui est faite, mais c'est la terre actuelle, mais qui est complètement purifiée, qui redeviendra comme le jardin d'Éden. Voilà. Et c'est sur cette terre-là que vivront les témoins de Jéhovah ressuscités. Donc c'est différent parce qu'ils n'ont pas cette même notion. Ils interprètent différemment les textes. Quand ils disent que la terre passera par le feu, ils comprennent plutôt par une purification. Pas une destruction, mais une sorte de purification du péché, de sorte que les gens pourront habiter sur la terre. Imaginez la terre comme le paradis d'origine. Le paradis d'origine, il n'y avait pas de péché, tout était parfait. Ça, c'est comme ça qu'ils comprennent. Donc c'est encore une autre manière de voir, mais qui ne tient pas avec la parole de Dieu. Oui, une question ici.
Oui, pour revenir à ce que disait la sœur, mais en fait j'ai deux questions quand même, c'était que dans l'Apocalypse, il est bien précisé qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais qu'il n'y aura pas de soleil, puisqu'en fait c'est l'Éternel lui-même qui éclairera cette nouvelle terre, donc ça sera quelque chose qui n'a certainement rien à voir avec ce qu'on connaît, qu'on peut imaginer. Ouais. Moi j'avais une question en fait, les scientifiques disent qu'en fait, rien ne se détruit, tout se transforme. Ouais. Il prenait l'exemple d'une feuille de papier. Si on la brûle, en fait, elle est juste transformée. Les choses se répandent dans l'univers. Il suffirait juste de reprendre ces éléments et on referait une feuille de papier. Et je me posais la question si le principe de la résurrection, ça ne serait pas ça, justement.
Alors, la résurrection, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand une personne meurt, un chrétien, on va prendre l'exemple d'un chrétien, quand un chrétien meurt, son corps, il retourne à la poussière et il disparaît complètement. Mais son âme, elle va auprès de Dieu instantanément, au moment même de la mort. L'âme, elle va dans le paradis. Et la résurrection, en fait, quand il est parlé de résurrection des corps, n'est pas à proprement parler à partir du corps périssable, mais à partir de l'âme immortelle. C'est l'âme immortelle qui sera revêtue d'un corps glorifié. Alors, je ne sais pas si on peut parler de molécules ou d'atomes, parce qu'on est dans le type de création spirituelle.
Parce qu'en fait, à la fin, je parle à la dernière résurrection, je ne parle pas à la résurrection des chrétiens, où il dit que la mort, c'est les morts, l'océan, c'est mort, etc. Donc,
l'autre résurrection, voilà. C'est celle des non-croyants. Donc, dans la Bible, cette résurrection a lieu après le millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Christ sur la terre, avec les croyants qui, eux, ont été ressuscités au retour de Jésus-Christ. Au retour de Jésus, donc c'est la résurrection des croyants qui vont régner sur la terre pendant 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans, il y a la résurrection des non-croyants. Et là, c'est pareil, parce que les non-croyants qui meurent actuellement, leur âme, elle est détachée du corps et elle va dans un lieu que Jésus appelle la Géhenne, où on l'appelle aussi l'enfer, où c'est un lieu de tourment et de flamme. Mais c'est que l'âme. Le corps, pareil, il retourne à la destruction complète. Et c'est au moment de la résurrection, après les 1000 ans, que eux aussi, à partir de leur âme pécheresse en souffrance, reçoivent un corps de résurrection, mais qui va souffrir aussi dans les flammes, et ils sont jetés dans l'étang de feu, et ça c'est la destinée. De même que pour les chrétiens, la destination finale c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, de même pour les non-croyants, c'est l'étang de feu, mais avec le corps de résurrection des non-croyants, qui est un corps en souffrance. Alors voilà, il y a résurrection dans les deux cas, pas au même moment et pas dans la même destinée. Voilà comment c'est présenté dans la Bible. Oui.
En fait, je me demandais par rapport à ce qui est écrit, donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, etc. Et en fait, je me dis, mais où se trouve le Seigneur en fait? Est-ce qu'on parle d'un monde spirituel qu'on ne voit pas comme le tout petit particule que tu nous as montré? Mm-hmm. Parce qu'il est parlé aussi de créer d'autres créations comme les anges, etc. Ou c'est un Dieu tellement immense qu'il est au-dessus de tous les univers? Et exactement. À ce moment-là, où sont les anges? Et est-ce alors, que...
Il y a plusieurs questions. D'abord, les images que je vous ai présentées, ce sont des théories scientifiques. Ce sont des hypothèses. Quand on montre l'univers qui est concentré dans une tête d'épingle, des milliards de fois plus petit qu'une tête d'épingle, c'est une hypothèse, c'est une théorie scientifique. On n'est pas absolument certain que c'était comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc, là, j'ai présenté la théorie. Maintenant, comment exactement les choses se sont passées? Personne ne peut le dire. Même les scientifiques, il y a une part quand même de croyance ou de foi, si on peut dire, ou de forme de dire, finalement, on pense que ça s'est passé comme ça. Bon, les anges font partie de la création, mais la Bible dit que les anges ont été créés avant la création matérielle. Parce qu'il y a un passage du livre des Job qui dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les fils de Dieu, c'est une manière imagée pour parler des anges, ils éclataient en chants de joie au moment de la création. Donc ça montre que les anges ont été créés les premiers. Donc la première création est spirituelle, invisible, les anges. Et la deuxième création, elle est matérielle, temporelle. Alors, est-ce que ça s'est passé exactement comme la science le présente? Ça, c'est des hypothèses. La Bible, elle présente les choses par la parole de Dieu. La matière a jailli, la lumière a surgi et les choses se sont mises en mouvement. Donc, vous voyez, Moïse n'y était pas non plus, mais voilà la révélation imagée qu'il a eue de Dieu, parce que la Genèse n'est pas un discours scientifique. C'est un discours spirituel et imagé pour nous parler des choses réelles. Mais ce n'est pas un traité de science, la Bible. Ce n'est pas son but. Son but est spirituel, c'est nous montrer comment connaître Dieu, comment comprendre qu'il y a un Créateur, Dieu qui nous aime, qu'il a donné Jésus pour nous. Voilà, la Bible, c'est ça. Vous voyez ? Donc, où était Jésus? Alors, il y avait bien le Fils, il y avait le Saint-Esprit qui est mentionné, mais Jésus est mentionné quand il est dit, Dieu dit que la lumière soit, ben, quand Dieu dit, c'est la parole, et la parole, c'est Christ. Donc, on voit qu'il y a Dieu, au commencement, Dieu, Dieu le Père. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit, deuxième personne de la Trinité. Dieu dit, Dieu parle, la parole, Jésus est présent aussi au moment de la création. Il précède la création. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore une question?
On va revenir sur... il y aura une nouvelle terre,
oui.
Des nouveaux cieux. Et entre-temps, les saints seront où?
Alors, entre-temps, quand les gens meurent, donc ils sont au paradis, c'est ce que Jésus a dit au brigand qui est mort sur la croix. Le brigand qui a cru, l'autre n'a pas cru. Donc celui qui a cru, il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est-à-dire que son âme est allée le jour même dans la présence de Dieu. Le paradis, c'est donc là le lieu des rachetés actuel. Ensuite, quand Jésus revient, la Bible dit qu'il sera accompagné de toutes les rachetés, donc qui sont morts, mais qui recevront le corps de résurrection au moment du retour de Jésus. En même temps, ceux qui seront vivants sur terre à ce moment-là, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur et recevront aussi un corps de résurrection, mais sans passer par la mort. C'est ce que Paul explique. Nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera. D'abord, les morts en Christ ressusciteront premièrement, donc c'est ceux qui sont déjà dans le paradis qui recevront leur corps glorieux. Et ensuite, nous les vivants, il dit, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Mais vous ne pouvez pas aller à la rencontre du Seigneur avec ce corps-là. Il faut que ce corps soit changé et qu'il devienne incorruptible, immortel, donc le corps de résurrection. Donc les seuls qui ne connaîtront pas la mort, ce sont les croyants vivants au moment du retour de Jésus. Exactement. Et c'est là qu'a lieu le règne sur terre de 1000 ans, avec... ceux qui étaient au ciel, qui ont donc leur corps de résurrection, ceux qui étaient encore sur terre ou des croyants qui ont traversé la tribulation qui était là et qui ressuscitent à ce moment-là, les deux, en fait, vont vivre sur la terre pendant 1000 ans, les 1000 ans de règne de Christ sur la terre. Et c'est donc où est-ce qu'ils habiteront? Sur la terre. La terre sera quand même purifiée dans un certain sens parce que le péché sera canalisé. La Bible dit que Satan sera lié pendant 1000 ans. Donc, il n'y aura plus les tentations, etc. Donc, ce sera un temps de paix, de prospérité sur la terre. Mais au bout de 1000 ans, Satan sera relâché. Il arrivera à séduire encore quelques-uns, parce que sur la terre, il y aura aussi des nations. Et parmi ces nations, la plupart auront suivi Dieu par contrainte. Mais là, Satan étant relâché, ils vont être séduits. Et certains succomberont à ce moment-là. Et à la fin du millénium, c'est là qu'on entre dans l'éternité, puisque ceux qui n'ont pas suivi Dieu, plus ceux qui sont morts et qui sont dans ce lieu de feu, de tourment, leur âme est là, ils vont ressusciter à la fin du millénium et être jugés de manière définitive, jetés dans les temps de feu. Et ça, c'est l'éternité. Maintenant, ça ne bougera plus. Tandis que les croyants, après le millénium, donc avec le corps de résurrection, ils entreront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ils régneront pour toujours au siècle des siècles, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, pas dans cette création-là. Il y a encore 1000 ans de transition. Et ensuite, il y a l'éternité. Donc, où sont les croyants? Actuellement au ciel, pour ceux qui sont morts. Ensuite, ils régneront 1000 ans sur terre. Et ensuite, ils seront pour toujours dans la nouvelle création. Voilà.
Est-ce que il y a, dans notre nouveau monde, est-ce qu'il y aurait, du péché?
Dans le nouveau monde, non. Dans le monde, dans la nouvelle création que Dieu va faire, il n'y aura plus de péché. Le péché, il est de cette création-là. Il n'y aura plus même la possibilité de pécher. Une fois qu'on sera avec Christ pour toujours, il n'y aura plus de pensée vaine, on n'aura même plus l'idée de pécher. Ce sera fini. Oui. Merci Jean-Paul, tu peux le dire dans le micro.
Oui. Moi, je voulais apporter une constatation. C'est que les scientifiques qui s'occupent de ces choses-là, ils passent leur éternité, en quelque sorte, depuis le début, à se corriger les uns les autres.
Mmh. Oui, c'est le propre de la science.
Il y en a quand même, à l'heure actuelle, qui sont véritablement croyants, qui ont vraiment reconnu que Dieu est là, mais je suppose qu'on les fait taire.
Alors, il y en a qui deviennent chrétiens, il y en a qui sont croyants, hein, même des scientifiques. Après, c'est vrai que la science, objectivement, ne parle pas de religion ou de foi Elle s'appuie uniquement sur des choses qu'on peut démontrer et prouver. Donc on n'est pas du tout dans le même registre que la foi. Oui. C'est pour ça que les scientifiques, même si vous êtes chrétien, vous allez toujours chercher à démontrer, à prouver, si vous êtes dans un cadre scientifique, parce que c'est le système qui veut ça. On ne s'appuie pas sur des promesses, sur des paroles de Dieu, on s'appuie uniquement sur des faits et des constatations. Et donc, oui, la science découvre de nouvelles choses, remet en question ce qui a été découvert, et elle avance comme ça.
Dans la Bible, je sais plus si c'est dans les proverbes ou dans les psaumes, il y a des choses révélées qui sont aux hommes, et puis il y a les choses cachées qui sont à Dieu.
Exactement. Il y a des choses qu'on ne saura jamais sur cette terre. Voilà. Même avec les plus grands scientifiques, les plus grands... Il y aura toujours une part de mystère, puisque, comme je l'ai dit, ce ne sont que des hypothèses, des suppositions qu'on ne peut pas absolument prouver, mais qui sont plausibles, en tout cas pour certains scientifiques, au jour d'aujourd'hui, qui peut-être dans 5 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans seront complètement chamboulés par d'autres découvertes. Donc voilà la science qui évolue.
Alors, on a parlé des 1000 ans, du règne du Seigneur de 1000 ans sur la Terre. Est-ce que la Bible précise quels sont ces 1000 ans? Comme la Bible dit, 1000 ans, c'est comme un jour au ciel. Ah. Et voilà. Donc, c'est quel genre de 1000 ans?
Est-ce que c'est 1000 ans, 1000 années de 365 jours, ou est-ce que c'est une période, une image? C'est possible que ça soit une période qui ne soit pas forcément de 1000 ans de 365 jours, puisqu'on est dans le cadre spirituel. En tout cas, c'est une longue période. On est là aussi, parce que l'Apocalypse fonctionne beaucoup avec des chiffres et des images. Et il faut toujours être prudent dans l'interprétation et de dire absolument, ça sera 1000 ans de 300 ans. En fait, le texte montre par cette durée de 1000 ans qui est comme un bloc qu'il va y avoir une longue durée du règne de Christ sur Terre. Mais de combien exactement? Bon, c'est dit 1000 ans. Est-ce que c'est un chiffre rond? Est-ce que c'est une image pour parler d'une grande durée? Il y a plusieurs possibilités de comprendre. Mais ça ne sera pas en tout cas 3-4 jours. Ça ne sera pas très court. Ça sera forcément quelque chose d'assez long. On ne peut pas dire que ça sera comme un jour. Bien qu'une fois qu'on est ressuscité, le temps n'a pas du tout la même durée, enfin la même perception de la durée. Parce que quand vous entrez dans l'éternité, le temps n'a plus de pouvoir sur vous. Aujourd'hui, le temps a du pouvoir sur nous, là, l'heure tourne. Certains commencent à fermer les yeux. Vous voyez qu'il a du pouvoir, le temps. Aujourd'hui, mais imaginez, vous êtes dans votre corps de résurrection, vous pourriez rester jusqu'à minuit, pas de fatigue. Ça serait pratique.
C'est intéressant pour les 1000 ans, parce qu'en fait, pour ceux qui écoutent un petit peu les rabbins, etc., ils disent qu'en fait, depuis la création de l'être humain sur la Terre, ou entre je veux dire, la création du, peut-être pas de l'être humain, de Adam, on va dire, peut-être entre la possibilité en fait, d'une vie sur la Terre, jusqu'à la venue du Messie, du Mashiach, comme ils atteignent, on va atteindre les 6000 ans d'histoire, en fait, de l'humanité.
Oui.
Et si ça collerait avec le retour de Jésus, entre guillemets, et les 1000 ans, on entrerait dans le septième jour, c'est-à-dire le jour du repos, celui du Messie. Oui. Et ensuite, donc, avec le nouveau ciel et la nouvelle terre, le Melech HaOlam, le huitième jour, en fait. Et donc, le nouveau ciel, la nouvelle terre, ce serait le huitième jour de Dieu, c'est-à-dire un nouveau ciel, une nouvelle terre.
C'est une théorie. Hein. C'est une théorie qui existait d'ailleurs dans les premiers chrétiens qui imaginaient les choses de cette manière-là. Ce n'est pas tout à fait récent. Mais qui ne reste qu'une théorie et qui n'est pas confirmée par la Bible déjà et qui n'est qu'une hypothèse. Donc effectivement, ça ferait 6000 ans, 7000 ans, le chiffre parfait avec les 1000 ans de règne, et puis après, l'éternité. Bon. Je dirais qu'il faut être prudent quand même avec ce genre de calcul. Tous les calculs qui ont été faits pour le retour de Jésus et calculer ces choses se sont avérés faux. Allez, une dernière question, parce que je vois que je m'étais fié à la pendule, là-bas, mais elle était fausse. Elle s'était arrêtée. Le temps s'était arrêté. Donc, on aurait pu rester jusqu'à minuit. C'était toujours 9h25, 9h30.
Dans Genèse 1-2, c'est écrit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Les ténèbres, faut le comprendre comment...
Obscurité. On va en parler justement samedi. On va parler des 6 jours de la création. Les ténèbres dont il est question ici, c'est l'obscurité. D'ailleurs, c'est appelé nuit. De même que la lumière, c'est le jour. Donc on aurait pu mettre à la place de ténèbres, parce que ce mot évoque quelque chose de peut-être négatif pour la plupart, on pourrait parler d'obscurité. Obscurité en opposition au jour, la lumière. Obscurité, nuit, jour, lumière. Voilà, je vais inviter le groupe à venir terminer par une dernière action de grâce et on va louer le Seigneur ensemble pour le remercier pour sa parole, pour ces moments aussi que nous pouvons passer dans sa présence. Et puis, louons-le de tout notre cœur et bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Merci.
Soyez bénis, entrez bien.